La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com. I know
how it sounds. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci encore une fois d'être à l'écoute de La Sexploratrice avec Mel Trudel et Max Lacoste.
En chair et en audio, Mel.
Yes! On est en live sur TikTok, La Sexploratrice. Il y a déjà, mon Dieu Seigneur, 167 personnes présentement. On vous annonce tout de suite, comme à l'habitude, on ne répond pas aux commentaires. Veuillez communiquer avec nous via le 418-670-9098. Et allez-y tout le monde, dites-nous d'où nous écoutez, votre nom. Et moi, je veux vous saluer en ondes. C'est toujours vraiment un plaisir de savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. Autant de votre ville, ou êtes-vous dans votre lit? Êtes-vous en cuisine? Êtes-vous... Qu'est-ce que vous faites?
C'est la grande question. Nous voulons tout savoir.
On veut tout savoir. Max, t'as passé une bonne journée?
Attends un peu, je vais me le demander. Hey Max, t'as-tu passé une belle journée? Ah, correct, je te dirais. Ouais, je pense que ça va. Toi, comment ça va?
Bien, ça va bien. Moi, j'ai deux shows dans mon corps aujourd'hui. J'ai été dans le retour.
Oui.
Donc, en remplacement de la belle Josée.
On a travaillé ensemble. D'ailleurs, c'était une bonne entrevue avec Éric Duhaime.
Oui, vraiment. Hein?
Vraiment.
Vraiment une belle entrevue avec Éric Duhaime. Allez réécouter ça. C'était vraiment super intéressant. Puis, c'est ça, on a co-animé. Ouais, on était dans le même show cet après-midi et de retour ce soir.
C'était
avec
la Sexploratrice format retour aujourd'hui.
Voilà.
Pourquoi qu'on n'a pas parlé d'intimité tant que ça?
On n'a pas parlé de coquinerie, là. Moi, je parle pas juste de sexualité dans la vie.
T'es capable? T'es comme un biscuit Oreo, hein?
Voilà, un mini-wheat.
Comme un mini-wheat, ouais, c'est peut-être
un mini-wheat,
plus...
un côté givré.
Hey, il est 10 heures, OK? Mes images peuvent pas toutes être bonnes.
Oh, attention! Donc, on a Simon de Berthéville, salut! On a Cheech qui est dans son lit, comme toujours, c'est son heure. Jack qui nous écoute de son camion. Tipat, sa 40. Jean Plamondon de Saint-Basile, qui travaille au Ciment Québec. Hey, salut! Donc, Billy Vaux qui est en train de faire une toile au lac Beauport.
Une toile?
Jennifer de Sainte-Foy qui nous salue. Oui,
Billy. La peinture.
Oui, c'est ça, une toile de peinture. Voilà. C'est donc bien le fun. Tu vois, j'ai reçu un commentaire d'une femme qui nous a écouté en rafale, qui a écouté plusieurs émissions en rafale pendant qu'elle défaisait sa tapisserie. Ce qu'elle a aimé, ouais, je vais vous le dire parce que je suis vraiment contente du commentaire qu'elle a fait. Ce qu'elle aime, c'est qu'on est capable d'aborder des sujets très profonds, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, qu'on puisse parler de sexualité sans que ça vire en truc un peu... qu'on peut, tu sais, on l'apporte vraiment de façon très professionnelle, autant... Hey, by the way.
Vas-y, je t'écoute.
Le puceau de maîtresse Bella,
ouais,
nous a écrit pour nous remercier d'avoir parlé de lui, remercier maîtresse Bella d'avoir parlé de lui. Et là, j'attends de ses nouvelles parce que j'aimerais beaucoup qu'il vienne en ondes.
Je pense que ça pourrait faire une émission extrêmement intéressante.
Je veux parler avec lui, voir c'est quoi son quotidien, comment il vit ça de rencontrer des dominatrices alors qu'il n'a jamais, jamais eu de relation sexuelle.
Oh, il y a le gaz au fond en commençant, lui, on va se le dire. Mais d'après toi, là, le nombre de puceaux qui divaguent et qui voguent dans notre société, en bas de 30 ans, mettons?
J'en connais trois.
OK, puis en haut,
30 ans? Non, j'en connais trois dans la trentaine, en fait.
Dans la trentaine, donc de 30
ouais
à 40?
Oui.
OK.
Oui. Un très complexé par son membre. L'autre a une espèce d'handicap là, visuel. Et le troisième, lui, c'est simplement sa personnalité. Je pense qu'il est juste vraiment, vraiment timide. Ouais. On va les inviter. Je pense qu'on va les inviter pour en parler.
Oui. Les trois en même temps.
J'aimerais bien ça.
Et la dominatrice Bella aussi.
Yes! Salut Franck de l'Ontario. On a ici quelqu'un qui nous écrit de Ricky. Ben salut tout le monde, François de Bellechasse. Bon, ben merci beaucoup de nous écrire, d'être à l'écoute. C'est toujours un plaisir de vous savoir présent avec nous. 418-670-9098. N'hésitez pas à nous poser des questions, des commentaires. On va peut-être même ouvrir les lignes un peu plus tard. On dit tout le temps ça, finalement, le temps passe si vite qu'on n'a pas le temps. Mais bon. Donc, bonjour Paco de Montréal. Alors, ce soir, on aborde un sujet intéressant qui a touché presque tout le monde à un certain moment dans notre vie. Et c'est le chagrin d'amour. comment se sortir d'un chagrin d'amour, des trucs pour... Moi, je veux savoir comment s'en sortir. Des trucs pour passer au travers. Comment on se rend compte qu'on est rendu, oui, OK, le deuil est passé, mais on est en dépression ou pas. J'ai tout plein de questions pour notre invité ce soir.
Le doc.
Le thérapeute compatissant, bienveillant.
Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Docteur Paul Simard, psychologue.
Bonsoir.
Salut,
bonsoir.
Paul.
Bonsoir. Sa visite hebdomadaire avec nous ce soir.
Je suis toute là.
Toute là.
Alors là, si tu veux me poser des questions compliquées sur les couples, les ruptures, les chagrins d'amour, je suis là, je suis prêt.
Oui. Bien, en fait, c'est que j'ai lu qu'un chagrin d'amour, et là, tu pourrais me répondre à savoir si c'est vrai ou pas, un chagrin d'amour pouvait avoir un impact aussi puissant qu'un choc post-traumatique. J'ai lu également que le stress subi lors d'un chagrin d'amour, bien, ça pouvait même mener à des problèmes cardiovasculaires, puis ça, même sur un cœur sain, là. Surtout chez les femmes. Il y aurait même un cardiologue de Paris qui aurait trouvé une nouvelle maladie, semble-t-il, mais je veux t'entendre là-dessus. Le syndrome du cœur brisé ou le syndrome Takotsubo, qui serait un syndrome dû au stress émotionnel, aussi positif ou négatif, qui aurait un impact directement physiquement sur le cœur. Donc, on parle de l'équivalent d'un infarctus, surtout chez la femme. Ça pourrait même avoir des complications non négligeables. Donc, ça va d'effet de palpitations avec arythmie cardiaque jusqu'à une insuffisance de rétractation cardiaque. Je n'avais jamais entendu ça.
Non.
Pas à ce point. J'ai déjà entendu parler de traitements qu'on donne finalement à des gens qui vivent un choc post-traumatique, par exemple, qui reviennent de la guerre ou des trucs comme ça. Oui. J'ai déjà lu que ça... C'était parfois prescrit à des gens qui vivaient un chagrin d'amour. Donc déjà là, j'étais assez surprise de voir que ça pouvait les aider également et que le chagrin pouvait être à ce point profond. Mais là, cette maladie-là, je n'avais jamais entendu ça.
Non, moi non plus.
Bon!
Bon, ça va bien.
On en apprend-tu des affaires?
Mais je vais te dire un secret, je ne suis pas cardiologue. Effectivement. Je suis psychologue.
Donc on va rester dans le psycho. Un chagrin d'amour, oui. Psychologiquement, là,
oui.
C'est fort.
C'est comme un choc de voiture, une collision frontale. C'est drôle, on n'en voit pas les gens qui font une peine d'amour ou une rupture choc à l'hôpital. Mais une personne qui a une collision de 50 km/h frontale, même s'il a eu son coussin gonflable qui allume, c'est drôle, on ne les envoie pas à l'hôpital tout
mais
le temps.
Même quelqu'un qui fait juste assister à un accident, qui est témoin d'un accident, témoin exact. D'une scène, qui n'a aucun choc physique, va être invité à se
possiblement qu'il va avoir une intervention, c'est ça. Fait que c'est comme, ça fait partie des souffrances invisibles qui sont appelées à être mieux comprises. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche.
Comme on dit, malgré les avancées médicales, la seule chose qui n'existe pas encore, c'est les chirurgies pour les cœurs brisés.
Oh!
Merci. Oui. Mais merci, ça, c'est peut-être un mythe, d'ailleurs, parce que le cœur d'une personne saine, là, c'est des grosses fibres, ça, les fibres du cœur. Donc, c'est solide, c'est capable d'en prendre en masse, là. Fait que ça prend des conditions particulières pour fragiliser le cœur. Puis il y a notamment le fait de se suractiver avec le stress de manière chronique et intense. Donc là, ça pourrait fragiliser la personne.
OK.
Mais puis... il faudrait le voir à ce niveau-là, au niveau de l'activation des systèmes qu'on appelle le système nerveux autonome sympathique. Donc, il s'occupe du stress, de la réponse d'alerte. Quelqu'un qui est toujours en phase d'alerte, ça le fragilise au bout. Là. C'est tout le système qui est magané.
Oui, c'est ça, c'est la rumination et le fait de rester là, dans tout ça. Et le professeur Alain Brunet qui aurait mis au point une pilule à base de propranolol, une molécule qui est censée diminuer l'impact émotionnel d'un souvenir traumatique. Est-ce que ça...
C'est pas tout à fait ça.
Ah non? Mais voyons, j'ai donc bien des drôles de sources.
Non, t'es pas loin, c'est juste parce que c'est tout un peu complexe. C'est que, en gros, c'est que l'utilisation du médicament qui s'appelle le propranolol,
oui.
Ça fait partie de la catégorie des médicaments qui s'appellent les bêta-bloquants non sélectifs. Et ce que ça fait, en gros, c'est que ça parle au système nerveux sympathique qui s'occupe du stress. Là, ça va agir sur les aires cérébrales qui s'occupent de la réponse au danger puis au stress. Là. Ça va comme leur permettre de désenfler, entre guillemets. Mais ça se fait en combinaison avec un traitement qui est souvent un traitement structuré. Là. On appelle ça la thérapie de reconsolidation avec l'EMDR. Puis le professeur Brunet a mis en place un protocole validé comme quoi qu'en 6 rencontres où la personne va prendre le médicament, le propranolol, une heure avant la consultation là, de psy, là. Puis là, elle va faire sa rencontre avec une technique spéciale d'EMDR qui favorise, entre guillemets, la digestion des souvenirs qu'on rumine tout le temps, entre guillemets. Là, genre. Puis là, rapidement, ça permet à la personne de stocker l'événement traumatique dans la mémoire à long terme. Donc, c'est ça qu'il faut favoriser. C'est le fait d'arrêter que ça soit pris dans la structure cérébrale qui fait la revivance constante. Donc, la combinaison du traitement EMDR et propanolol va favoriser le stockage.
Est-ce que ça veut dire que ce traitement-là nous offre une espèce d'expérience qu'on pourrait comparer à une drogue? Est-ce qu'on a un effet altéré de la réalité lorsqu'on le prend?
Non, c'est si je me souviens bien, c'est un sous-tenseur. Là, fait que ça fait baisser les tensions artérielles, là, font désenfler.
Okay.
Si on ferait un vraiment gros résumé ce soir là, du fonctionnement de la médication là, pour aider les auditeurs, okay. Ça n'a pas un effet de fucker la personne.
Okay.
Puis ça prend à tout prix un suivi psychologique là, oui. Avec ce médicament-là.
Oui. Si vous allez sur le site web, d'ailleurs, là, du professeur Brunet, là, sur la thérapie de reconsolidation, il y a tous les protocoles à remettre à votre médecin pour qu'il vous prescrit la bonne dose puis que ça soit administré ensuite le plan de traitement psychologique par un psychologue ou un professionnel habilité à appliquer ce genre de traitement-là.
OK. Et à partir du moment où on vit la rupture amoureuse, et là, je tiens à préciser que vous soyez dans la peau de la personne qui se... fait quitter ou que vous quittez la personne, vous pouvez vivre un deuil. Personnellement, c'est tout le temps moi qui ai quitté mes amoureux jusqu'ici. J'ai quand même eu des peines d'amour.
Oui.
Parce que c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on ne l'aime plus nécessairement. Il y a différentes raisons parfois pourquoi on
s'en
va.
C'est vrai, il y a aussi le deuil de la relation. Hein. C'est pas juste le deuil du feeling amoureux.
La famille, la relation, la vie qu'on avait. Donc, c'est un peu ça. Je vais aller ailleurs avant d'aller vers le deuil. Est-ce qu'il est vrai, Dr Simard, que surtout chez les femmes, le deuil de la relation est déjà fait souvent avant même que madame ait mis un terme?
Mais cette affirmation-là est basée sur des statistiques qui disent que les femmes quittent davantage que les hommes. Dans les mariages, notamment le taux des mariages hétérosexuels, le taux de demande de divorce provient beaucoup de la part des femmes. Puis plus que la femme est éduquée, plus que les statistiques sont élevées.
OK.
Donc, si on présume que la femme initie, c'est peut-être parce qu'elle a cheminé l'idée de la séparation. Mais encore là, on ne peut pas faire une réponse absolue pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui vont se séparer de manière impulsive. Puis finalement, c'est pas ça qu'ils voulaient faire pantoute. Puis il y en a d'autres qui le ruminent pendant longtemps, mais que quand ils l'annoncent à l'autre, ben peut-être que monsieur, entre guillemets, il est très surpris, lui, de l'annonce de la séparation. Puis il dit, t'aurais pu me le dire? Là, elle dit, ça fait 15 ans que je te le dis. Là.
Mais quand tu dis que les femmes qui sont plus éduquées ont tendance à plus souvent laisser leur homme en premier. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre l'éducation et l'intelligence émotionnelle?
Je vois pas le lien que tu essayes de faire présentement.
C'est-à-dire que c'est quoi? Pourquoi les femmes plus éduquées ont tendance à se...
Moi, je pense que c'est
à se libérer de la relation plus rapidement?
L'hypothèse que je ferais, c'est que plus qu'on va aller dans un aspect d'éducation, on va moins peut-être tolérer des choses qu'on aurait tolérées intuitivement. Parce que là, on sait des choses. On a plié notre esprit d'une manière à savoir, et peut-être que ça fait en sorte qu'on est conscient qu'on va être libre en dehors de la relation. C'est pas une fin en soi, la fin de la relation. Donc, ce serait une hypothèse que je ferais là-dessus, mais j'ai pas lu la documentation spécifique là-dessus.
Mais moi, c'est un peu ça. En fait, je faisais déjà mon deuil avant de quitter.
Ben oui, c'est ça.
Puis c'est ça pour beaucoup de femmes, en fait. Il y a quelqu'un qui m'agace, qui dit « Ben oui, me semble, mais oui, c'est la réalité. » Mais tu sais, probablement que j'ai une peur de l'abandon qui fait que je quitte la relation avant. Mais souvent aussi, ce qui m'est arrivé, en fait, c'était quand même des longues relations, c'est qu'il y avait des red flags.
Que tu n'écoutais pas.
Bien, que je levais, puis je disais « Hey, hey, je t'annais de ça, j'aimerais qu'on parle de ça », puis ça se réglait pas. Mm-hmm. Puis là, ben je restais, mais à un moment donné, tu sais, j'étais comme « Bon, là... »
T'accumulais trop, puis ça...
Oui, puis en fait, c'est qu'à un moment donné, tu n'admires plus la personne, tu sais, puis c'est là que...
Oui.
C'est ça, que je finissais par quitter la relation. Mais bon, c'est sûr qu'un jour, ça va sûrement m'arriver aussi de me faire quitter. Là. Je peux pas croire.
Ça aide.
Évidemment. Mais jusqu'ici, puis j'ai pas eu tant de relations non plus. Mais bref, ça se peut. Et dans ces cas-là, on peut quand même avoir une peine d'amour.
Bien sûr.
Et comme tu disais, c'est ça, d'être en deuil de la relation. Un deuil des enfants aussi. Si l'autre conjoint a des enfants, c'est souvent ça même. La peine qu'on peut ressentir, c'est un deuil carrément. Est-ce qu'on pourrait décrire ça un peu comme un deuil équivalent à la mort de quelqu'un ou peut-être pas à ce point-là? C'est quoi les étapes se produisent dans notre tête?
C'est quand même intéressant. Le lien que tu fais avec la mort puis le deuil, quelque part. Fait que, tu sais, il n'y a pas une manière de dire un chiffre absolu. Là, tu sais, dire, là, si tu te sépares, ça va prendre tant de temps. Mais par contre, il y a des grandes tendances. Fait que de manière générale et reliée avec mes observations cliniques à moi, qui ne reflètent pas tous les psychologues, je vous dirais qu'il y a comme trois grandes temporalités. Le premier, c'est le moment du choc. Quand on a un choc initial, mettons avec l'annonce de la rupture, on se met de manière involontaire en phase d'alerte. Tout notre système de défense s'active. Puis là, ce système d'alerte-là est entremêlé avec des protéines qui viennent très inflammer le fonctionnement du cerveau. On appelle ça les cytokines, d'ailleurs. Puis quand tout ça est inflammé, ça reste en état d'alerte environ 3 semaines.
Oh, quand même!
L'état de choc, moi, j'aime ça. J'aime rappeler aux gens en thérapie qui vivent des ruptures que peu importe ce que vous allez faire, ça va être difficile pour les 3 prochaines semaines. Donc, essayez d'installer un filet de sécurité en essayant de réduire le stress. C'est un premier moment.
Ça, c'est pour l'état de choc de la rupture. Une émotion négative là, qu'on ressent, c'est quoi? C'est 24-48 heures, je pense?
Une émotion désagréable, tu veux dire? Moi, j'aime pas ça dire négatif.
Ah, okay.
Mais désagréable, ça va dépendre de laquelle émotion. Mais c'est une structure du cerveau, une émotion qui va se fatiguer à la longue. Puis parmi les 5 émotions de base, joie, tristesse, colère, peur, dégoût, l'émotion qui dure le plus longtemps, ça serait la colère, qui pourrait durer jusqu'à 48 heures. Avec un événement qui stimule. Mais encore une fois, ça dépend si on la réactive, si on l'amplifie. Mais la tristesse, parfois, on peut rester triste 24 heures après un événement.
Est-ce que l'état de choc à la suite d'une rupture peut varier selon la longueur de la relation?
Oui, bien ça, il y a des statistiques là-dessus qui ont été faites. Puis notamment, si votre engagement était très fort, ça peut être très difficile pour vous de vous réengager ensuite. Mais si vous avez...
Peu importe le nombre d'années, c'est au niveau de l'intensité de la relation.
L'intensité de l'attachement,
OK. Et c'est de là qu'on pourrait dire peut-être que, tu sais, des gens qui se séparent après 2-3 mois, qui vivent une réelle grosse peine d'amour, ça se peut qu'ils ressentent quand même un gros deuil, si la relation n'était pas
si
longue.
C'est ça. Il ne faut pas le voir comme étant une statistique de si c'est 15 ans, c'est plus impactant que 2 mois. Au contraire, c'est parfois tellement vif, puis il y a eu tellement d'espoir injecté dans le début de la relation que, pouf, là, tout d'un coup, l'espoir est explosé.
Bien, c'est parce qu'en plus, dans les 2-3 premiers mois, on n'a pas encore vu tous les côtés nécessairement de la personne.
C'est la lune de miel.
Fait qu'on est encore, c'est ça, on est encore en période de lune de miel, on est encore dans l'effervescence.
Mais couvrons les 3 points, si tu es d'accord, sur l'aspect temporel là, d'une séparation. Il y aurait le choc initial, 3 semaines. Puis après ça, de manière générale, moi, j'observe souvent qu'il y a une phase de manque qui va apparaître. La manque, c'est à peu près 3 mois, dans lequel la personne, elle va tout d'un coup se souvenir du bon de l'autre personne seulement. Puis elle va réactiver la nostalgie de « Ah, mais peut-être que si on se redonnait une chance, puis là, peut-être que c'était pas si pire finalement, ou peut-être que je pourrais endurer. » Bon, bien ça, cette période, le manque-là, est très sensible à la réactivation de la relation. Ça veut dire que si vous reprenez contact avec la personne, que vous recommencez à vous parler, ça réactive vos circuits de récompense dans le cerveau très rapidement.
C'est ça, c'est là qu'on redevient amoureux, nostalgique et qu'on redevient amoureux du potentiel de la relation, comme on en a déjà parlé. Donc, finalement, c'est un manque qui est similaire à la toxicomanie. T'sais, ce qu'on disait, c'est effondrement des repères, souffrance, colère, culpabilité, rumination. C'est vraiment comme...
C'est un
sevrage qu'on fait, là, finalement.
Toute forme de stimulation intense, c'est pas sans conséquence sur le cerveau. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des activités très intenses en disant « ben moi, je veux juste avoir du fun », mais ce n'est pas sans conséquence. Votre cerveau va s'adapter à ça, va baisser sa sensibilité au plaisir, peu importe la source.
De réactiver la relation lorsqu'on est dans la période de manque comme ça, est-ce que c'est la seule façon de combler le manque ou d'aller voir ailleurs, d'entamer une relation avec d'autres personnes? Ça peut également combler le manque de la rupture?
Ben, on pourrait peut-être en revenir là-dessus dans la phase sur le réarrangement puis comment on se réengage.
Parfait.
Mais pour boucler sur les phases temporelles, je vous dirais qu'après cette phase-là, puis c'est de manière générale, là, 3 semaines, 3 mois, ensuite, on pourrait aller jusqu'à une phase de 2 ans. Puis pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a des gens qui restent en deuil après une fin de relation. C'est comme une mort d'une relation, quelque part. Mais ça reste constamment réactivé à l'intérieur de soi. Donc, ils vont ruminer, ils vont avoir des flashs, ils vont avoir de la revivance, ça va faire des pensées intrusives. Puis c'est ça qui fait qu'on va aller vers des critères de deuil pathologique. C'est que le deuil en soi, ce n'est pas une maladie, mais ça peut devenir un deuil pathologique si ça perdure après 2 ans. Donc, il y a des gens qui se séparent, mais que ça reste traumatisant dedans d'eux, comme au jour 1 quasiment, pendant plus de 2 ans. Et c'est là qu'on pourrait peut-être commencer à songer à l'importance de faire un traitement avec propanolol.
Parce que c'est là que ça pourrait devenir finalement une dépression.
Exact, c'est ça. Parce que ça peut épuiser toutes les ressources du système. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre deuil et dépression.
Puis à quel point c'est difficile à diagnostiquer ça dans une pratique, parce que j'imagine qu'après 2 ans, on ne fait pas le lien directement avec la rupture qui s'est passée il y a vraiment longtemps.
Ben oui, si c'est en revivance, puis que la personne y repense tout le temps.
C'est ce qui crée
Elle pense toujours à ça dans sa tête. Là, on parle.
Parce qu'il faut faire la différence entre une tristesse et un trouble dépressif. T'sais, une tristesse, c'est relié avec une perte. C'est une émotion de base dans les 5 émotions. Donc, c'est normal d'éprouver de la tristesse, d'avoir un feeling qui est un peu déprimé. Donc, déprimé, c'est pas la même chose qu'un trouble dépressif.
OK.
C'est quand ça perturbe le fonctionnement de la personne de manière chronique, que ça s'associe avec une souffrance cliniquement significative, que là, on va commencer à évaluer si ce serait pas pathologique ou il n'y aurait pas présence d'un trouble ici.
Puis à ce moment-là, est-ce que tu conseillerais aux gens de changer d'environnement, de déménager, d'essayer d'effacer le plus de souvenirs possible?
Bien, c'est vrai que l'approche de oser le changement, c'est quelque chose qui est très puissant.
On voit souvent ça, quelqu'un qui se sépare, se coupe les cheveux, change de tête, surtout chez la femme.
Changement émotif, c'est comme un renouveau, une redéfinition. Puis dans les étapes de la vie conjugale, ça en est une, ça, une grande phase de redéfinition de soi. Mais par contre, il y a des gens qui vont se réengager vite dans une nouvelle relation.
Oui.
Puis ça, selon la recherche, c'est pas des mauvaises relations, les relations de rebound.
Bien, c'est des relations pansement, donc ça peut quand même être bien tant que ça demeure léger.
Non, c'est parce que ça a été étudié, puis c'est un mythe en réalité.
Oui.
Oui, parce que les gens, ils pensent tous ça, que c'est vu que c'est une relation de pansement, t'es pas vraiment disponible, fait que dans le fond, c'est la relation d'après qui va être la bonne. Mais c'était une croyance populaire.
OK.
Ça a été étudié. Puis sur des populations entières, ils ont découvert que la relation de rebound, de tremplin, peut être une aussi bonne relation. Ça va dépendre de la qualité de l'alliance puis la complémentarité des stratégies ensemble.
Peu importe le délai après la rupture.
De manière générale, encore une fois, je ne suis pas en train de parler de vous dans l'auditoire, ça qui vous est arrivé à vous.
Oui, absolument.
Et oui, c'est contre-intuitif.
OK. Docteur Simard, il faudrait déjà aller à la pause, mais on poursuit avec une tonne de sujets en lien avec le sujet de ce soir, qui est le chagrin d'amour. Vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sexploratrice avec Mel Trudel, Radio X.
De retour avec la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. On est en compagnie de Dr Paul Simard, psychologue, avec qui d'ailleurs on présente une super soirée interactive le 15 octobre au
QG
du district Sainte-Foy.
Exact.
Bon,
tabarouette. Vous pouvez stationner en dessous, c'est un stationnement payant par contre, ou dans les rues autour, mais la salle du QG, ça va être formidable. On va répondre à toutes les questions des gens.
Toutes vos questions de façon interactive. On va aussi prendre des questions avant la soirée pour pour en parler sur place, mais on va vraiment privilégier les gens qui seront là avec nous en live. Donc, les couples, les célibataires, tout le monde est bienvenu. On va aborder toutes sortes de sujets en lien avec les séparations.
C'est où les billets?
En lien. C'est au mélanietrudel.ca.
Galet comme il est bon. C'est où les billets?
OKensemble.com. Et on a un beau concours la semaine prochaine. Vous allez pouvoir communiquer avec nous par texto et remporter une paire de billets pour venir à notre soirée. Si vous avez déjà acheté vos billets, eh bien, on va tout simplement vous rembourser. On retourne à notre sujet principal. Le chagrin d'amour.
Oui.
Donc, on était rendu, c'est ça, dans les différentes étapes. Le deuil, au bout de 2 ans, la différence entre la déprime, la dépression.
C'est ça. Ça peut devenir un deuil pathologique si ça perturbe le fonctionnement sans arrêt, de manière continue. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'un traitement. Mais à la base, ce n'était pas une pathologie, une rupture. C'est un événement. Comme un deuil, ce n'est pas une pathologie à la base.
Exact. Et comme on disait avant la pause, c'est pas malsain en soi de s'étourdir avec une nouvelle conquête suite à une rupture, c'est-à-dire que cette relation-là pourrait être plus qu'une relation pansement ou qu'une between.
Exact. Moi, j'aime bien dire que c'est dans relations saines qu'on répare les blessures relationnelles. Donc, il est faux de penser qu'on va parfaitement se réparer là, en individuel seul, puis quand on va être parfaitement prêt, là, on va se réouvrir à la rencontre. Parce qu'en réalité, quand on prend le temps de bien se réparer avec soi-même, qu'on est bien seul, on peut développer de l'hyper-autonomie, voire même perdre les réflexes de la vie à deux. Puis là, ça devient très compliqué réapprendre à vivre ensemble. Parce que, il me semble que j'étais bien quand j'étais dans ma bulle.
Hey, mais oui, vraiment. Mais tu sais, ça peut être possible, en fait, de rencontrer quelqu'un puis de dire, bon, on cohabite pas ensemble exact. Nécessairement. Si tu as réussi à être bien seul dans tes affaires, tout ça, tu peux quand même avoir une relation à distance ou une relation qui n'est qui pas nesting, c'est-à-dire que vous habitez pas nécessairement ensemble. Ça peut être très sain, ça aussi.
Effectivement.
Même que, est-ce que ça pourrait pas aider à raviver la flamme davantage un peu plus souvent lorsque, justement, les deux personnes n'habitent pas ensemble?
Oui, bien, la distance, ça va répondre, ça va déclencher différents trucs en fonction du style d'attachement de la personne.
OK.
Donc, une personne qui serait ambivalente, anxieuse, qui douterait de elle, qui aurait peur de se faire abandonner tout le temps, la distance, ça va la déclencher là-dedans. Elle va avoir peur que l'autre, tout d'un coup, l'oublie, que l'autre préfère faire des activités avec d'autres. Elle va se sentir pas désirée, pas aimée. Puis là, elle va inventer peut-être des scénarios là-dessus.
Mm.
Puis la personne, elle, qui a un attachement évitant de l'intimité, elle, ça va être « Ah, enfin, j'ai mon temps avec moi-même ». Puis plus que l'autre va essayer de rentrer dans sa bulle, bien, il va peut-être reculer encore plus. Donc, ça devient comme une attaque de la relation, ça aussi, à force d'être à reculons.
Oui, je te suis.
Mais il y a des gens qui sont sécures, qu'eux autres sont capables de s'aimer proches et s'aimer loin. Ça, c'est formidable, ça.
Oui, vraiment. Ça, c'est sain. Il y a des gens qui peuvent partir en voyage des mois, revenir. La relation va perdurer dans le temps, là.
Oui.
Donc, et comment est-ce qu'on se redéfinit post-rupture, finalement?
Oui.
Ce serait quoi les étapes ou qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux gens?
Bien, dans le travail sur soi, moi, lorsque les gens ont commencé à faire ce travail-là, parfois, ils ont besoin de faire du sens avec ce qui s'est passé. Donc, une fois que la crise est passée, s'il n'y a plus de risque, notamment que ça vire en violence ou en harcèlement, parce qu'on va se dire les vraies choses, ça arrive qu'il y a du harcèlement puis de la violence après séparation chez certaines personnes. Mais si ce n'est pas le cas, que vous êtes capable de vous parler ensemble, bien, on peut aller chercher la pépite. Ça, c'est une technique dans laquelle on va dire à l'autre personne, c'est correct, j'ai accepté la rupture, mais je voudrais savoir des choses, j'aurais des trucs à vérifier avec toi si tu es d'accord. Je voudrais comprendre des trucs. Donc, c'est comme si on cogne à la porte pour demander si l'autre personne est d'accord pour aller chercher de l'information.
Okay.
Ça ne veut pas dire qu'on va revenir en couple ensemble, mais je voudrais comprendre qu'est-ce qui s'est passé à tel moment. Donc, ça peut reconstruire ou participer à la reconstruction du sens d'un événement.
OK.
Mais c'est pas tout le monde qui va avoir ce besoin-là. Il y a des gens qui, eux, dès qu'ils sont plus en couple, leur esprit est déjà reparti ailleurs. Puis...
Oui, c'est ça. Surtout la personne qui a levé les flags longtemps.
Non, ben c'est ça. Mais pas forcément, parce que moi, j'en ai des gens dans mon cabinet de consultation que c'est eux qui souffrent le plus d'avoir initié la rupture.
Ah oui, hein?
Ben oui.
Ben en fait, j'imagine que, tu sais, quand tu essaies durant des années... à ce que ça fonctionne, puis en vain, ça fonctionne pas, puis que là, tu te sépares, ben oui, effectivement, c'est un gros deuil. Peut-être que l'autre personne, elle, était bien sans plus, dans le fond. Peut-être. Cette personne-là pourrait plus facilement s'en remettre.
Ben, c'est là qu'il faut faire de la croissance personnelle puis du développement personnel. C'est pas la même chose, les deux.
Puis est-ce que les styles d'attachement sécures lors d'une séparation ont tendance à mieux vivre?
Oui. En fait, il va y avoir un réengagement plus rapide, selon la recherche. Lorsque les gens ont un attachement... c'est l'inverse. Une personne qui a un attachement insécure va se réengager plus rapidement, de manière générale.
Oui, mais là, c'est ça.
Ça veut dire que la personne sécure, elle peut prendre son temps.
Exact.
Elle est capable de tolérer l'incertitude de « là, je suis seule ou est-ce que je me rouvre à quelqu'un d'autre? » Donc, elle est capable de tolérer ça. Mais la personne insécure, elle, c'est insoutenable. Ça rajoute à l'incertitude. Puis là, vite, vite, quelqu'un pour combler le trou.
Dès qu'il y a un petit peu d'amour, là, la personne va s'accrocher à ça,
oui.
Juste pour ne pas être seule, dans le fond.
Oui.
Et ça, même si la relation est toxique. Hein, j'en ai parlé hier, justement, dans le retour. Là, la relation a beau être toxique, la personne préfère le connu de la toxicité d'une relation que l'inconnu et le risque d'être mieux, mais c'est de l'inconnu, donc elle préfère rester dans sa merde. On va le dire de même.
Ça veut dire aussi que les jeunes qui n'ont pas d'enfants ont tendance aussi à se réengager plus rapidement dans une nouvelle relation que les gens qui sont plus matures et qui ont des enfants. On pourrait dire que c'est comme si ça prend de la place dans le quotidien, de toute façon, la vie familiale.
Oui.
Puis ils ont tiré des expériences, des leçons de leur expérience. Fait que là, ils disent peut-être que je ne répéterai pas dans le vide pour le fun de répéter. Là. Fait que là, ils sont capables de mettre un peu plus de délai, selon la recherche.
OK. Puis il y a aussi le fait de les parents, tu sais, qui présentent parfois trop vite. Des nouveaux conjoints aux enfants, ça, j'imagine que ça peut quand même créer un problème au niveau de l'attachement aux enfants. Ou pas vraiment,
à long terme. OK, qui présente le nouveau partenaire aux jeunes enfants?
Oui.
Oui, bien, ça, il y a peut-être une manière d'être prudent. C'est que si vous faites participer vos enfants à la passion amoureuse que vous avez, il est possible que ça contamine l'instabilité ou de l'enfant. C'est peut-être bien de prendre le temps de connaître la personne avant d'exposer, mais dans la réalité, des fois, il y a des gens qui n'ont plus de frein quand ils sont amoureux.
Oui.
Puis là, ils disent, moi, j'y vais all-in. Mais à quelque part, c'est beau, ça, quelqu'un qui y va all-in, c'est. Il est prêt à s'engager à nouveau. Fait que pourquoi qu'il mettrait un frein? Fait qu'encore là, c'est du cas par cas.
Oui. Ça peut être sain comme ça peut être toxique. Et quelqu'un demande sur le live, quels sont les signes subtils à reconnaître d'une personne qui prépare la séparation? Est-ce qu'il y aurait des signes?
Oui, il y a peut-être un changement dans le comportement ou l'humeur. Comme par exemple, si vous étiez dans une relation et ça ne va pas, il y a un ton maussade, votre routine est plate. Puis là, tout d'un coup, vous voyez votre partenaire arriver. Puis depuis quelques jours, il est comme de bonne humeur. Il a recommencé à s'entraîner. Il s'habille pro. C'est peut-être des indicateurs dans le changement de l'humeur générale de la personne. Sans que vous soyez en mesure d'attribuer ça à rien. Peut-être que lui a déjà pris sa décision, cette personne-là.
Okay.
Mais c'est des peut-être.
Comment on en vient à expliquer à la fin d'une relation, donc à la rupture, le phénomène de... Je ne sais pas si c'est un phénomène de compensation, un mécanisme de défense que certaines personnes ont d'haïr l'autre personne, comme si l'amour et la haine étaient tellement proches qu'on se mettait à détester l'autre personne.
Comme
souvent...
si tout à coup, tous les bons coups, tous les beaux moments, là, ça n'existait plus.
Ça n'existait plus.
Ben, c'est qu'on ne peut pas haïr quelqu'un qu'on n'aime pas. Fait que la haine, là, c'est d'être attaché à l'autre personne... puis de tellement y en vouloir, de pas nous aimer de la manière qu'on voudrait qu'elle nous aime, ou de je t'aille tellement de... Dans le fond, c'est comme si je suis très attaché. Donc, il faut réfléchir les choses en termes de fondement de l'attachement, c'est-à-dire le mouvement de sympathie-antipathie. C'est que sympathie, c'est j'ai le goût de te manger à la face, puis antipathie, c'est j'ai le goût de te claquer à la face.
Yin-yang.
C'est que ça tire, ça pousse. Puis dans ce tiraillement-là, c'est le terreau fertile de la passion, hein, ça. Mais si on prend le temps de se poser, qu'on approfondit la réflexion dans la sympathie, là, on peut aller dans l'empathie. À l'intérieur de la souffrance, on va comprendre des choses. Mais si on pousse l'antipathie plus loin, ça peut devenir de la psychopathie, voire même de la sociopathie, ou dans laquelle on va faire mal à la personne qu'avant, on estimait comme étant la plus précieuse au monde.
Parce que ça nous fait du bien.
Parce que ça défoule quelque chose. Moi, je dirais pas que c'est tant que ça fait du bien, je dirais plutôt que ça défoule. Puis ça peut aller jusqu'à défouler de manière sadique.
Ouais.
Donc, c'est peut-être correct de s'autoriser à réfléchir à des scénarios de « moi, j'y ferais mal, le mot juste ». Mais il y a une différence entre penser puis le faire.
Oui.
Un peu comme les fantasmes. Pas tout le monde qui veut réaliser leurs fantasmes pour de vrai, là.
Quand les hommes ont un trop plein d'émotions, on va se le dire, OK? Mesdames, on a tendance à verbaliser. Messieurs, vous avez tendance souvent à garder ça à l'intérieur. D'ailleurs, toi qui es bon là, dans le mot maladie, est-ce que c'est vrai que ça vient de mal à dire? Donc, c'est des mots qu'on garde à l'intérieur qui deviennent...
C'est pas vrai.
C'est pas vrai?
Ça vient du langage des oiseaux.
OK.
En fait, c'est un concept, c'est un langage ésotérique qui vient de la France, en fait, des francs-maçons et tout ça. C'est une manière de s'amuser avec les mots pour y donner un autre sens.
OK, mais j'aime ça, moi.
Dis-les en anglais, ouais, tu vois, ça sonne plus pareil.
Ah, non, pas partout.
C'est pour ça que c'est des beaux trucs mémotechniques qui sont bien pratiques, mais c'est pas forcément le sens comme ça.
OK, on s'écarte un petit peu, mais les hommes...
C'est la même chose que le chaperon rouge.
Oui,
c'est ça. T'as ta veste carottée, à soir.
Mais, ben oui, c'est ça. Mais messieurs, là, est-ce que tu leur conseillerais, quand ils ont un trop-plein, de fesser dans un oreiller, dans quelque chose, d'extérioriser ça?
Non.
Non? De travailler sur eux à l'intérieur?
Ça, c'est une fausse croyance selon laquelle les hommes ont besoin d'être agressifs pour vivre leurs émotions.
Non, je suis pas d'accord avec ça, moi non plus.
Fait que c'est pas systématiquement le cas.
OK.
On peut vivre... Parce que le point commun, c'est le stress. Oui. Dans une rupture, on vit un grand stress. Puis on peut pleurer de toutes les émotions quand on est stressé. Savais-tu d'ailleurs que quand on pleure, c'est un évacuateur à hormones de stress?
Non, je savais pas ça.
C'est pour ça qu'on se sent bien après avoir pleuré une bonne shot. Là, t'sais. C'est que l'enveloppe de la boîte crânienne, là, elle sépare un peu le système sanguin là, avec une bonne couche là, du reste du système sanguin du corps. Mais pour sortir les neurotransmetteurs, les hormones, les déchets de blessures dans le cerveau, ça n'a pas 10 millions de manières là, pour sortir. Ça sort par les larmes et la salive.
Donc, ça crée de la cortisol.
Wow.
Ben, c'est ça, on élimine le cortisol en pleurant puis en crachant.
Le cortisol qui est contagieux, hein? On en a déjà parlé.
C'est
là.
Pas tout à fait ça.
Ben, pas tout ça. Ben, voyons.
C'est la réponse nerveuse qui est contagieuse.
Oui, exact, c'est ça. Mais en fait, si toi, tu es stressé, qu'on est dans la même pièce...
Ton corps aussi va se mettre à être... C'est ça, en guillemets, on appellerait ça la contagion sociale.
Ouais.
mais c'est un peu un mécanisme là, relié à l'imitation.
Et comme le bâillement.
Oui, pour nous aider à survivre, on a tendance à imiter les gens. Je ne sais pas si tu as vu à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, les gens qui se sont tous levés pour applaudir là, un ancien guerrier qui avait fait la guerre là,
un bon gars,
avec les SS.
Oui.
Bon, ben les gens à l'Assemblée, ils ont tous fait ça parce que les autres à côté d'eux le faisaient. Ils ne savaient pas trop qui applaudissait. Là. Mm-hmm. Ils se sont fait dire... Regarde, on a un invité spécial, je vous le présente, applaudissez-le. Puis là, il y a des gens qui sont mis à applaudir. Ouais! Fait que les autres, à côté, ne sachant pas
tout
trop,
le monde.
Ils embarquent là-dedans.
La contagion.
C'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité.
OK.
Mais ça, on vit ça dans la vie conjugale également. Puis là, tout d'un coup, on se sépare alors qu'on était habitué d'avoir un appui l'un sur l'autre, qu'on s'était comme contaminé par notre style émotionnel. Puis là, on se sépare. Oh! Donc, ça, c'est ça qui peut être un grand stress adaptatif. Peut être dur sur le système. Là. Parce que là, je ne dois pas seulement me redéfinir comme étant séparé de la personne. C'est tout mon système nerveux qu'il faut qu'il retrouve ses points d'appui de comparaison.
Tout ton système nerveux et tout ton univers. Parce que là, souvent, c'est OK, il faut trouver une nouvelle maison, des meubles, les enfants, tout ça. C'est quelque chose, là, une séparation.
Oui, puis quand il y a des séparations avec violence, ça fait partie des plans qu'on fait avec les partenaires. La personne qui se fait violenter, là, notamment... Il faut l'aider bien souvent à préparer le fait de trouver un appartement, le fait de meubler l'appartement, le fait de remplir le frigidaire, le fait de mettre du linge pour les enfants. Puis là, à un moment donné, quand le partenaire violent n'est pas là, ils prennent leurs affaires puis ils déménagent.
D'après ce que tu constates dans ta pratique, est-ce que tu dirais que la violence post-conjugale et conjugale, c'est quelque chose, puis je me doute bien de la réponse, là, mais j'ai beaucoup d'histoires dans mon entourage qui me font penser peut-être le contraire. C'est plus quelque chose qui est subi par les femmes ou par les hommes?
De manière générale, femmes seraient plus... sujet à recevoir du harcèlement post-séparation.
Est-ce que c'est possible aussi que les hommes qui le vivent sont moins enclins à le partager?
Oui, ça c'est vrai. Ça fait partie des grandes statistiques. Mais c'est comme tabou. Puis même quand c'est déclaré par les hommes, notamment les hommes qui subissent des violences conjugales, ça peut être banalisé par les systèmes d'intervention parfois.
Absolument.
Puis là-dessus, moi, j'ai eu des grandes discussions avec mes collègues, hein, parce qu'il y a des études scientifiques sur qui initie dans les couples la violence. Puis les statistiques, ça peut choquer certaines personnes, c'était 52% des comportements de violence conjugale étaient initiés par madame dans un couple hétérosexuel. Mais par contre, la violence des hommes est beaucoup plus dommageable. Donc, c'est peut-être pour ça que ça crée des inégalités de
Yvon Dallaire a déjà mentionné justement que, si je ne me trompe, les couples les plus violents étaient les couples de femmes lesbiennes.
Mais quand tu dis initié, tu veux dire quoi par là?
Le premier coup, mettons.
OK, donc qui frappe physiquement.
Oui, le premier il y aurait un peu plus de prédominance d'initiation, mais dans ce qui est rapporté selon les études.
Puis madame, évidemment, ça passe. Mon fils m'en a déjà parlé. Il dit, maman, pourquoi une femme peut frapper un homme, c'est pas grave?
Elle peut pas, c'est grave.
Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'est ce que je lui ai expliqué. C'est pas possible, tu sais. Pourquoi une femme peut frapper un homme, et ça, c'est pas grave, mais si l'homme fait la même chose, lui, il peut aller en prison.
Bravo, fiston, c'est une excellente
question. J'ai dit, James, c'est aussi grave dans les deux cas. C'est illégal, tu peux pas toucher une autre personne, tu sais. Mais il a raison,
quelque part. C'est ça. Mais pourquoi c'est toléré? Mais c'est à cause des réflexes qu'on a d'animal en dedans de nous. C'est que l'expression de l'agressivité chez la femme, c'est souvent mal interprété. Puis autant que ça va avoir tendance à faire en sorte que ça a des désavantages puis d'autres avantages. L'avantage, c'est que gars, c'est banalisé si elle commet de la violence. Mais le désavantage, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas prise au sérieux quand elle se fâche. Fait que vous voyez, il faut toujours regarder ce genre de rapport-là de manière double. C'est à la fois un avantage et un désavantage. Ça ne veut pas dire que c'est correct ou pas correct, là.
Parce qu'on va se le dire, il y en a des personnes qui profitent un peu du fait que c'est moins, qui vont pousser à bout l'autre personne.
Oui, vraiment.
Mais vraiment, comme volontairement, puis qui va ensuite aller porter plainte, tu sais.
Eh oui.
C'est vraiment épouvantable.
Et dans le harcèlement, d'ailleurs, de séparation, là, il y a des grandes tendances. Là. Quand on étudie ça chez les... c'est quoi les formes de harcèlement qui sont présentées? Hein? Il y a à peu près 54% de gens qui vont dire que dans le harcèlement subi, ils vont recevoir des menaces. 32% de gens qui vont subir des violences physiques. Et 12% qui reçoivent des violences sexuelles. Alors qu'ils sont séparés. Hein?
Les violences psychologiques, ça rentre dans les menaces, ça?
On pourrait dire ça.
Puis tu sais, à partir du moment où vous êtes séparés, là, si votre ex voit quelqu'un d'autre, ou peu importe, vous avez plus...
Mais c'est ça,
c'est
ça
plus
fait,
vos affaires.
Ça fait tellement mal. C'est parce que c'est justement à cause de l'identité qui est diffusée l'un dans l'autre. C'est comme si le fait que la personne ait du plaisir avec une autre personne ou qu'elle se réengage amoureusement avec
l'autre... Ah, ça doit être trop horrible.
C'est comme se faire arracher quelque
mais
chose.
Oui.
Puis il y a des gens qui sont tellement en crise qu'ils vont faire des affaires horribles, des tragédies qui se produisent.
Ouais.
Mais c'est la crise qui parle. C'est pour ça qu'il faut être très sensible à... Est-ce que la personne est en situation de crise? Si oui, ben il va falloir être prudent dans vos interventions, là. Puis prenez pas ça en charge vous-même. Hein. Confiez ça à des professionnels de la santé. Faites un appel à des services d'urgence, de soutien, puis eux, ils vont faire les évaluations si ça requiert une intervention.
Exact. Si vous ne savez pas où vous dirigez, là, le 811 directement, ils vont vous rediriger.
Exact.
Sinon, toi, tu as encore, je pense, quelques possibilités, quelques places disponibles. Bien, c'est sûr que là, pour les cas plus graves, probablement pas, là, mais
c'est
tu peux quand même prendre des gens là, qui auraient besoin de consulter.
Il me reste 3 places demain.
Hey, c'est pas beau ça? On veut ça! Donc, vous pouvez continuer de nous écrire au 418-670-9098 parce que, comme on le dit, on est en live sur TikTok, mais on ne répond pas, on ne lit pas non plus les commentaires. Donc, c'est vraiment via le 418-670-9098. Il y a quelques personnes qui ont des petites questions auxquelles on va répondre plus vers la fin de l'émission. Donc, on va poursuivre avec l'aide à la reconstruction.
Oui. Ah ben ça, le fait de se reconstruire, on va devoir zoomer sur la blessure.
Ouais.
Puis ça, c'est quelque chose que personne n'aime faire, regarder sa blessure. Parce qu'on aimerait donc ça passer à d'autres choses. Le commentaire que je reçois le plus souvent, moi, c'est « Comment je pourrais passer par-dessus ça? » Puis le deuxième commentaire le plus fréquent, c'est « Comment je pourrais revenir comme avant?
Mm-hmm. »
Là, moi, je réponds à ça que si tu veux passer par-dessus, ça veut dire que tu ne tireras pas la leçon qui se trouvait à l'intérieur. Fait que tu vas peut-être répéter le même genre de relation. Puis si tu veux revenir comme avant, ben, tu vas peut-être finir comme maintenant. Fait que ici, on t'aidait à la place à plonger à l'intérieur de ta souffrance de manière sécuritaire pour que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé, pour que tu te redéfinisses et que tu développes ta valeur pour pouvoir mieux choisir à l'avenir.
Et que tu détermines tes limites,
oui.
Ce que tu es prêt, tu es non négociable, ce que tu es prêt à accepter et ne plus accepter dans ta prochaine relation.
Ça, c'est bon.
Mais moi, c'est tellement important.
Moi, je vais faire un exercice de clarification des valeurs aux gens à ce propos.
OK.
Puis là, je leur fais faire une grande liste de trucs qui ont de la valeur au sens large. Je leur fais identifier les choses non négociables, essentielles, là, qu'on jettera pas à poubelle. Puis là, on va évaluer le degré de satisfaction de chacune de ces valeurs-là non négociables. Puis bien souvent, on découvre que les gens se négligent. Quand ils sont angoissés, là, c'est que leurs valeurs non négociables, ils ont accepté eux-mêmes de les trahir.
À quel point la plupart du temps, ils sont capables de bien nommer les valeurs qui les représentent et qu'ils veulent? Est-ce qu'ils font beaucoup de déni?
C'est difficile pour plusieurs personnes.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui vont avoir une vision idéalisée de ce que ça devrait être une valeur.
Mm.
Comme par exemple, un jour, j'ai fait faire l'exercice à une femme qui avait bien de la misère à faire... Là, je réarrange l'histoire, là, c'est pas une vraie histoire, ça. Mais elle avait bien de la misère à trouver c'était quoi ses valeurs. Puis là, j'ai dit, ouais, mais toi, t'es rendu à 30 ans, 3e chirurgie d'augmentation mammaire, tu te fais faire les cils, les ongles à toutes les 2 semaines, tu vas chez la coiffeuse 2 fois par semaine... Tu faire des liposuctions, des injections dans les lèvres, des injections.
Moi, je
ne
sais pas ce qu'ils prennent le temps.
Ben, c'est ça.
Ces gens-là.
Ben, c'est ça, j'ai dit. J'ai dit, dans le fond, tu es en train de me dire que c'est suffisamment important, l'esthétique, pour que tu mettes du temps, de l'énergie, de l'argent, que tu sois même prête à mettre ta santé en péril pour l'avoir. Elle dit, ouais, dans le fond, c'est vrai que c'est important pour moi, la beauté, l'esthétique, mais c'est poche comme ça. Fait que là, dans le fond, je l'ai aidé à faire la paix avec ses propres valeurs. Puis là, c'était je réarrangeais une histoire. Hein.
Oui, mais ça, c'est t'apportes un point intéressant parce que est-ce que c'est pas une valeur qui fait en sorte que sans ça, elle aurait pas confiance en elle?
Ça, c'est un grand débat hein, sur la place de la chirurgie. Puis quand on regarde les études là-dessus, est-ce que ça va vraiment rendre les personnes plus heureux?
Ça, on va en reparler aussi dans un autre épisode en profondeur,
ça veut
vraiment.
Dire qu'on faut pas en parler à soir?
Ben,
mais de manière générale, là, les gens, c'est comme un peu une bébelle. Ils vont aimer ça temporairement. Puis ils vont
parce
réaliser
que ça refait
finalement...
tout le temps, là. C'est éphémère. Fait que la dopamine liée à tout ça, là, ça doit s'estomper assez vite aussi.
Exact.
Là.
Fait que finalement, ils avaient vu ça comme étant l'objet de la gratification, de leur délivrance de bonheur. Puis une fois qu'ils l'ont, ça dure quelques temps. Puis là, finalement.
Puis ça se peut-tu qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, qui passent drette, mettons?
Passent drette.
Ben, tu sais, là, qu'on... J'ai des amis, j'ai pas des amis, des personnes que je connais qui sont allées. Puis là, ça commence à comme déformer le visage.
OK, qui vont
mais
faire des
qui ont passé droit, là, tu sais, ouais.
C'est ça, je comprenais pas ton...
Ouais, excusez, qui ont passé droit dans le naturel de la chose.
Ah oh, oui, bien sûr.
Puis je ne sais pas comment aborder le sujet.
Bien, ça touche tous les rapports à l'image corporelle.
Mais est-ce qu'elle, tu penses qu'elle le sait ou...
Pas forcément. Il y a notamment un trouble qui s'appelle la dysmorphophobie. Oui. Dans lequel les gens n'ont pas une image corporelle
qui les représente.
Rationnelle.
Oui.
Puis dans la phase de reconstruction après une rupture, est-ce que ça peut aider de changer son image comme ça? On l'a abordé brièvement tantôt, mais à quel point ça peut nous permettre de repousser comme une nouvelle fleur?
Bien, d'une certaine manière, il y a des gens qui vont avoir besoin de se redéfinir à la fois sur leurs sentiments, leur image, leurs réseaux sociaux, leurs activités, leurs loisirs. Donc, on va explorer ça avec la personne.
Parce que je vois souvent ça sur les réseaux sociaux, puis probablement que tu l'as vu, Mel, aussi. À la suite d'une rupture, souvent, les femmes...
Des nouvelles photos. Mais les gars aussi.
Oui, les gars aussi, un peu plus dénudés parfois, puis je veux pas tomber dans le jugement, loin de là, mais c'est quelque chose, c'est un fait, c'est quelque chose que j'ai constaté.
Toi, tu mets des photos dénudées?
Ouais, toujours, ben, je vais te les envoyer.
Moi, non, c'est pas nécessairement.
Je vois ça plus souvent.
Peut-être chez les plus jeunes, oui, plus dénudés, plus sexy, tout ça. Ouais. Mais moi, on dirait qu'il y a des personnes, dès que les selfies réapparaissent, des photos de profil en selfie ou des photos... Oui. Ou changement de photo de profil, là. Ouais. Puis là, tout à coup, la personne poste plus. Là, je sais que cette personne-là, hop, OK, sa dernière relation, ça n'a pas marché. Personne est revenue sur le marché.
C'est comme un appel à l'amour. Puis il y a des gens qui vont mal gérer l'appel à l'amour. C'est comme la gestion de l'attention.
Donc, on est en période de rut à nouveau, c'est ça?
D'une certaine manière, on pourrait dire ça. Mais on a besoin d'attention comme être humain.
Tu sais, ça fait partie la base chez l'humain.
Ben oui, c'est ça. Puis si l'enfant ne l'a pas, il va aller la chercher à tout prix.
Exact.
C'est ça qu'on appelle l'attention négative.
Oui. Fait que pour aider à la reconstruction, dans le fond, on reçoit ses besoins en séduction, justement.
Ben oui, ça serait peut-être bien, ça, de réfléchir à vos aptitudes relationnelles. Est-ce que vous avez toujours été choisi ou là, c'est vous qui pourriez choisir? Un peu comme toi, tu disais que c'est toujours toi qui as initié les ruptures.
Oui.
Ben oui, ça se pourrait-tu que ça ait un lien avec... la sélection de partenaires que tu fais initialement qui fait que tu t'assures la liberté de garder le contrôle sur la relation. Fait qu'il y aurait toutes sortes de réflexions à faire là-dessus. Je dis pas que c'est ça.
Pourtant, c'était pas mal tout le temps des hommes assez contrôlants, là. Mm-hmm. Plus, ouais.
Mais toi, t'es une incontrôlable.
Mais... Je sais pas. Mais non, au contraire, je suis très... Non, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que j'ai travaillé beaucoup. Puis ouais. C'est pour ça que je dis aux gens... Tu sais, passer de dépendant affectif profond à cet attachement très sécure, là, c'est possible. Puis j'en suis l'exemple très sérieusement. Là, j'étais...
Oui.
Je ne vivais que dans le regard de l'autre.
Il y a 30 % de la population seulement qui vont y arriver.
C'est vrai?
Selon les recherches sur les changements du style d'attachement. Ouais.
Ah oui?
Oui.
Oui, parce que c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Là. Fait que durant 22 ans de couple, j'avais un style d'attachement plus anxieux, dépendance affective, et là, c'est l'inverse. Ce qui est le fun, quand on apprend à être bien seul, bien, on apprend... à être plus sélectif aussi.
Oui.
Là, je sais ce que je veux, ce que je veux plus, puis la personne qui va entrer dans ma vie, quand je vais être prête, elle va répondre à mes besoins, chose que je n'avais jamais pris le temps de déterminer dans le passé. T'sais. J'allais beaucoup selon le feeling, puis les moments, puis l'intensité des moments, puis les choses en commun, parfait. Ah oui, t'aimes ça, hey, je m'intéresse à ça. T'sais, c'est très fusionnel.
C'est ça, c'est relié au réflexe de fusion.
Oui, ça
se peut-tu que si on rencontre une certaine personne qui nous fait vibrer, qu'elle puisse nous amener à faire évoluer ou changer notre style d'attachement?
Oui. Ah oui, si on peut se contaminer dans l'insécurité, tout comme on peut se contaminer dans la sécurité. Et j'aime bien dire d'ailleurs que ça fait partie du processus de thérapie, ça. Moi, quand les gens s'assoient devant moi, je suis en train de les contaminer avec mon sentiment de sécurité. Je suis en train de faire une transfusion d'espoir que c'est possible de s'occuper de cette souffrance-là. Fait qu'au-delà des mots que je vais utiliser, je suis en train de les contaminer avec de la santé, là. Puis eux sont en train d'essayer de me contaminer aussi avec leur souffrance. Fait que là, ça affronte implicitement, en dessous des mots, de la conviction. Et ça, c'est les tables de négociation. Et des études scientifiques ont été faites sur qui gagne les tables de négociation. Bien, c'est le plus convaincu. C'est pas celui qui était en charge. C'est pas celui qui avait le plus d'expérience. C'est le plus convaincu. Fait que parfois, il y a des gens qui sont très convaincus hein, dans leur souffrance, puis qui vont essayer là, de persister, là, puis ils vont tester le lien thérapeutique jusqu'au bout. Là, ils vont peut-être même le faire exploser des fois.
Mais est-ce que c'est pas des personnes qui aiment se victimiser ou qui aiment être en mode victime?
Ça peut être une des formes de la souffrance.
Quand tu dis convaincu dans leur souffrance, est-ce que tu veux aussi dire qu'il n'y a pas d'ouverture?
Ça se peut. Des gens qui vont tester le thérapeute pour voir, c'est-tu vrai qui est bon? C'est-tu vrai qui est capable là, de tolérer les choses? Il va-tu démasquer mes mentries si je lui mens? Il y a donc ça, c'est ça, quelque part, c'est une sorte de tension qui va être palpable dans la relation thérapeutique. Moi, c'est mon sport préféré.
Est-ce qu'on serait prêt à répondre à quelques questions rapidement avant que ça se termine? On a quelqu'un qui dit « Ma sœur vit une séparation et j'aimerais juste avoir le lien du reportage de ce soir. » Ça va être disponible dès la fin de l'émission. Max, un peu plus tard, là, dans la soirée, va mettre ça en ligne au radiox.com, section Las Exploratrices. Donc, toujours possible de réécouter tous les épisodes en rediffusion. Et c'est le 418-670-9098 si vous avez des questions. Mais il y a déjà des gens qui nous écrivent. Quelqu'un nous écrit « Bonsoir, je suis de Montréal. J'aurais une question pour Dr Simard. Je voudrais savoir c'est quoi une crise de syncope d'émotion. Peu importe la situation, une rupture, des retrouvailles. » On m'a dit que des crises de syncope d'émotion, c'est très dur pour le cœur. Est-ce que c'est vrai?
Je pense que ça fait partie des croyances, comme on a mentionné au début du show, là. Le cœur, c'est un organe qui est très solide. Mais c'est peut-être le fait de le maganer de manière chronique.
C'est ce que... Oui, exactement. Donc, il dit... les médecins m'ont dit que je pourrais mourir à cause de ça. Est-ce que c'est vrai? Fait que j'imagine que lui doit en vivre à répétition, là.
Ça se peut.
Rendu à ce cas-là.
Mais c'est quoi une syncope d'émotion?
Je sais pas.
Mais ça doit être des chamboulements d'émotions, j'imagine, constants.
Des crises.
Mais c'est parce que syncope, des fois, il y a des gens qui vont l'utiliser avec le concept de choc vagal, mais je ne sais pas si c'est ça que je
veux
dire.
OK.
C'est pas un terme que moi, j'utilise dans la pratique courante. Mais vous pouvez avoir confiance que si vous êtes en santé, que vous n'avez pas d'autres fragilités, que vous n'avez pas d'antécédents familial, de malformations congénitales, probablement que votre cœur est capable de supporter beaucoup de choses.
Bien sûr. On a Jim de la Pennsylvanie. Bonsoir. C'est donc bien le fun. On a ensuite des sentiments que je suis pas capable d'exprimer. OK, donc, monsieur, ce serait des sentiments là, qu'il n'est pas...
Refoulement, blocage, résistance, ben oui.
On a un beau témoignage ici. Quelqu'un qui dit que j'ai été 19 ans avec la mère de mon garçon. La relation s'est terminée. Je suis restée 8 ans seule. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis avec la femme que j'ai mariée. Je reste à Lévis et elle reste à Québec. Et c'est la relation parfaite pour être heureux. Et ça, là, l'amour... À distance, l'amour dans deux maisons, je vois de plus en plus de couples le vivre, surtout des familles reconstituées, des couples qui ont déjà des enfants. Ça semble vraiment bien fonctionner. Mm-hmm. Donc, je pense que...
On a une autre question ici. Oui? Quelqu'un que ça fait un an et demi qu'il est séparé de sa conjointe et il aimerait savoir comment il peut faire pour arrêter d'être jaloux, finalement, après autant de temps, parce qu'il l'a encore.
Ça veut dire que l'esprit de la personne est centré sur l'ex. La jalousie, la possessivité, l'envie, ça veut dire qu'on est centré sur l'autre. Fait qu'il va avoir un travail, de manière générale, à recentrer son esprit sur soi. Ça ne veut pas dire de devenir le centre du monde, mais il faudrait peut-être redevenir son propre centre.
Oui.
Ça va vraiment être une question de réorientation de l'attention. Fait qu'il faut comme se surprendre quand ça se déclenche. Là, je suis jaloux. Là, je le sens dedans de moi. Là. Je me sens vraiment pas bien. Là. Puis là, on va envoyer son attention sur une autre activité. Sur quelque chose de créatif, sur une passion, sur une autre affaire. Mais ça, il ne faut pas le faire en se faisant mal. Il faut le faire de manière positive. On pourrait dire avec de l'autocompassion. Dire, bon, là, j'ai compris que ça me fait très mal. Là, je le sens. Ça s'est déclenché la jalousie en dedans de moi. Viens-t'en, cœur blessé. On va aller là-bas faire une affaire qui nous fait du bien.
Si c'est trop prenant, est-ce qu'on peut contacter quelqu'un pour nous aider à nous recentrer? Ou qu'est-ce qu'on peut faire?
Parce que parfois, il faut aller se faire contaminer dans la santé par un professionnel. Et parfois, il y a des gens qui sont tellement enlisés ou qui n'ont jamais eu de repères de relations saines. Fait que la thérapie avec un professionnel de la santé, un membre d'un autre professionnel, ça devrait vous protéger pour vous donner une empreinte là, de « Regarde, on va s'occuper de toi. » Puis il n'y aura pas de dérapage.
Exact. Parce que la jalousie en soi, c'est d'envier l'autre personne avec qui... J'imagine qu'il y a différentes formes de jalousie
exact,
de toute façon.
C'est ça. Envie, c'est j'aimerais savoir ce que l'autre a que j'ai pas. Puis jalousie, ce serait peut-être une touche de possessivité en plus mélangée avec ça.
Ça se guérit.
Donc l'autre vit un plaisir, puis moi, ça m'angoisse.
Oui. OK.
Donc c'est comme, je le vis comme si c'était une perte.
Mm-hmm.
Puis moi, c'est comme si je me faisais humilier quand l'autre vit du plaisir sans moi. Fait que c'est tout un travail de redéfinition.
Tout qu'un travail à faire sur soi.
C'est un servicieux.
Moi, j'étais jaloux en 2009, d'ailleurs. Il a fallu que je travaille ça.
Ah oui?
Oui. J'étais très jaloux. Puis c'est le moment où je suis allé consulter, d'ailleurs, pour la première fois. J'ai été surpris de voir à quel point ça pouvait se faire rapidement. Il suffit de réapprendre les concepts de distribution de l'attention.
La confiance en soi.
Devenir important à ses propres yeux, ça veut dire de commencer à se donner un peu d'attention et de soins. Puis là, oh tiens, ça change l'équilibre des pouvoirs et des préoccupations.
Il a fallu que tu aies consulté en tant que psychologue alors que tu connaissais probablement déjà les concepts qui qui aurait pu te porter à soigner.
Okay. J'étais pas en voie de.
Oui, c'est ça.
Mais probablement que bon, tu étais assez au fait de comment tu aurais pu te départir de ta jalousie. Est-ce que c'est important d'aller consulter, même quand on est psychologue?
Oui, oui, parce que c'est dans la zone aveugle.
Voilà. Fait que, peu importe le problème qu'on a dans la vie, c'est important d'aller consulter.
Ben, si on voit pas le bout. Je vais te dire un secret. J'ai une psychologue. Et j'ai un aidant aussi qui n'est pas psychologue. Oh mon Dieu, ça veut-tu dire que je suis un pas bon psychologue?
Ben non, ben
c'est
non.
Que ça se situe dans la zone aveugle. Puis c'est pas toujours activé. Maintenant, je les vois pas souvent. Mais quand je repense à mes difficultés, je me dis, ah, OK, des fois, je vais aller retourner les voir. C'est comme une retransfusion d'espoir. Donc, c'est une
invitation. Est-ce que tout le monde devrait aller consulter?
Ben non, parce que c'est pas tout le monde qui devrait être heureux. Il y a des gens que ça les intéresse pas.
Mais c'est vrai, ça, c'est un fait. Puis ça, on va en reparler, mais c'est vrai.
Ben oui.
C'est pas tout le monde qui est destiné à être heureux, puis c'est pas tout le monde qui veut l'être.
Parce que parfois, c'est plus important réaliser un projet ou bloquer une activité qu'on veut pas qu'il se passe que d'être heureux. Fait que c'est formidable, on a le choix, si on veut, de ne pas l'être. Puis c'est facile, pas l'être.
Puis quand tu parles de la zone aveugle, comment on fait pour se rendre compte qu'on est dans la zone aveugle si on voit pas qu'on est dedans?
C'est souvent avec des incohérences dans notre vie qui se répètent. Puis on va pas répéter 10 millions... de blessures. Hein. C'est souvent les mêmes genres de blessures qui se répètent constamment. Fait que quand vous voyez des redondances, des répétitions, des blocages, puis que vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est passé, probablement que vous auriez besoin de l'éclairage d'un professionnel qui est capable de la voir, cette zone aveugle-là.
Okay. Voilà. Merci, Dr Simard, psychologue. Ça a été un plaisir, encore une fois, de t'avoir avec nous ce soir. On va probablement se revoir la semaine prochaine.
Oh oui, oh
mais
yeah!
J'imagine. Et pour les billets pour notre magnifique soirée, la sexploratrice et le psy, c'est au melanietrudel.ca ou hockeyensemble.com. Et il y a des billets pour les solos, les duos. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup, chers auditeurs d'un peu partout au Québec et même aux États-Unis. On vous remercie de nous écouter. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. À demain!